CFM, CFM, le mag, tous les jours, la vie du Villefranchois.
Allez-vous nous rejoindre, suite exceptionnelle et supplément à cette édition du magazine d'actualité avec, par les petits fils du téléphone, comme annoncé, Stéphane Linou. Bonjour Stéphane Linou.
Oui, bonjour.
Stéphane Linou, aussi appelé premier locavore de France, c'est le surnom que vous ont donné les médias il y a une dizaine d'années à l'occasion d'un défi que vous vous étiez lancé. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, Stéphane Linou, vous serez demain avec nous à Villefranche-de-Rouergue à 18h30 à l'hôtel Les Fleurines pour une rencontre débat qui a pour thème consommer locavore. Et c'est Muriel Couder de La Folle Avoine qui nous propose cette soirée qui sera suivie d'un apéritif locavore. On pourrait peut-être d'ailleurs, Stéphane, nous commencer par rappeler ce qu'est un locavore.
En fait, un locavore, c'est une personne qui se nourrit uniquement avec des ingrédients issus d'un rayon généralement de 150 km autour de chez lui. Voilà, donc en fait, c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire suite à mon expérience qui avait été fortement médiatisée il y a une dizaine d'années. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais mon expérience, elle avait popularisé. Et généralement, les personnes qui se disent locavores veulent faire travailler les producteurs locaux, veulent savoir à qui est destinée leur épargne, leurs dépenses. Ils veulent faire tourner l'économie locale, inciter les producteurs à aller, s'ils ne sont pas bio, aller vers le bio, vers le mieux. Voilà, donc en fait, c'est s'intéresser à son territoire, à l'économie également du territoire, à l'écologie, au lien social. En gros, c'est ça le locavore.
Alors, il y a une dizaine d'années, vous êtes donc lancé le défi de manger locavore pendant un an, de 2008 à 2009. C'était quoi les enjeux il y a 10 ans donc de ce défi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a un peu bougé. Je prends souvent l'exemple du magasin Saveur Paysanne à proximité de la radio. J'ai la sensation que de manger local, c'est un petit peu plus rentré dans les modes de consommation. Mais c'était quoi les enjeux il y a une dizaine d'années de votre démarche et de ce défi?
Alors, je vais juste rappeler pourquoi j'avais fait cette expérience il y a 10 ans. Hein. Donc, du 9 septembre 2008 au 9 septembre 2009, je m'étais fixé le pari que j'ai réussi de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary, le lieu où j'habitais et le lieu où j'habite encore. Donc, que des produits locaux pendant un an, donc des 4 saisons. Pourquoi? C'était pour mettre un coup de projecteur sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Voilà, sachant que les territoires de production et les territoires de consommation ne sont plus les mêmes. Même en milieu rural, nous sommes sous perfusion alimentaire. À peu près 80% de notre alimentation est achetée en grande surface, même en milieu rural. Et s'il y avait, par exemple, une grève qui s'éternise, des blocages routiers, une cyberattaque sur la chaîne d'approvisionnement ou autre, combien de temps on tiendrait avec la production locale et les stocks locaux, sachant que une grande partie de la population ne produit plus sa nourriture, que les grandes surfaces n'ont que 2 ou 3 jours de stock, 2 ou 3 jours de stock sans panique, qu'il n'y a plus les ceintures vivrières, nourricières autour des villes, qu'il n'y a pas de stock alimentaire public locaux et qu'il n'y a plus, depuis très 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 longtemps, de stock alimentaire stratégique d'État. Donc, qu'est-ce qui se passerait si il y avait une rupture des approvisionnements? Et très concrètement, étant donné que nous ne sommes pas préparés et que les gens ne stockent même plus chez eux, eh bien, il pourrait y avoir des émeutes. Donc on l'a vu, hein, ne serait-ce que au mois de novembre, il y a des parties du territoire français qui n'étaient plus livrées, des supermarchés qui n'étaient plus livrés, par exemple en produits frais. On l'a vu, je crois que c'était en Narbonne ou à Perpignan, même des supérettes en milieu rural, au milieu des champs, où normalement il y a de la nourriture. Et bien non, il n'y avait plus, par exemple, à Salles-sur-l'Air, je l'ai appris, là, la supérette, au milieu des champs, n'avait plus de légumes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un blocage d'une plateforme et de hangar sur Toulouse. Donc très concrètement, C'était pour alerter sur cette vulnérabilité-là. Donc, je m'étais mis en scène. Donc, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes. Et je ne me nourrissais qu'avec des produits et des producteurs locaux. Donc, j'ai pu démontrer que j'avais réussi à me nourrir avec tout ce que produit la nature. Tous nos grands-parents étaient locavores. Mais bon, le monde n'existait pas. Et c'était du bon sens. Donc, en plus, j'ai fait des économies. Donc, toute la richesse, toutes mes dépenses étaient réinjectées dans l'économie locale. J'avais vu autant de monde. Donc, je me suis fait énormément d'amis. On a échangé également beaucoup. Et c'est aussi un enjeu écologique parce que, vous réduisez les transports, c'est sûr. Mais lorsque vous vous engagez en tant que collectivité locale, en tant que cantine, en tant que restaurateur ou autre, à acheter une production à long terme auprès d'un producteur, s'il n'est pas bio, et bien là, vous l'incitez, vous l'accompagnez, vous l'encouragez à produire mieux parce qu'il a une visibilité. Il y a une visibilité sur ses ventes. Donc, en fait, manger local, c'est un enjeu économique. En fait, vous fléchez les dépenses sur le territoire, vous réinjectez la richesse directement sur le territoire. C'est du commerce équitable en bas de chez soi. C'est du commerce équitable nord-nord. Donc, en fait, vous donnez la richesse aux producteurs. C'est un enjeu donc écologique, comme on l'a dit, un enjeu de lien social également, parce que vous maintenez des populations de paysans localement, parce que ils vivent mieux de leur métier avec une production et une vente en circuit court, mais également, et c'est là où j'apporte, on va dire, ma contribution, je le mets aussi sous l'angle de l'ordre public et de la sécurité nationale, le manger local. C'est augmenter la résilience alimentaire de chaque territoire pour avoir au moins un minimum de nourriture et de producteurs en cas de pépin, si les approvisionnements étaient coupés. Donc, plus on consomme local, plus on fait travailler nos producteurs locaux, et moins ils ont de chances de disparaître. C'est comme un muscle que l'on ne fait plus travailler, et bien, au bout d'un moment, ils font. Et c'est un peu, même totalement, ce qu'on a fait depuis 60 ans. On n'a plus fait travailler nos producteurs, donc qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont disparu, comme un muscle qui s'est atrophié. Voilà, donc en fait, manger et commander local, c'est entretenir et maintenir des infrastructures nourricières autour de soi.
Être locavore, c'est du bon sens, hein, ça devrait, on n'a même pas besoin de l'enseigner, c'est une responsabilité citoyenne que de faire circuler les richesses sur un territoire. On le rappelle, hein, Stéphane Linou, vous animerez demain une rencontre débat intitulée « Consommer locavore » à 18h30 à l'hôtel Les Florines, chez Romain Bouillard, soirée à l'initiative de Muriel Couder de la librairie La Folle Avoine. J'aurais aimé vous entendre sur le prix peut-être des aliments, sur l'agriculture, les agricultures, de la paysannerie qui nous propose des produits sur le local à l'industrie agroalimentaire et peut-être aussi au circuit grande surface et de manière générale l'industrie agroalimentaire. L'agriculture, les agricultures, l'agroalimentaire et la paysannerie et le prix.
En fait, la vérité des prix n'existe pas. Voilà, il faut arrêter de croire. Et d'ailleurs, c'est tout le système des subventions. Qui a tout faussé. Un produit issu de l'agriculture chimique, industrielle, et qui plus est si il est transformé par l'industrie agroalimentaire, vous le payez en fait plusieurs fois. Vous le payez peut-être pas cher ou moins cher à l'achat, mais à travers vos impôts, vous le repayez donc pour dépolluer les sols. Vous le repayez pour que le producteur ait un peu de revenus, donc les primes, c'est qui les paye, ce sont les contribuables. Donc là, vous le repayez aussi. Vous repayez également les dégâts qu'il peut y avoir sur les routes, lorsque vous avez des haies qui ont été enlevées par rapport au remembrement, où vous avez la terre qui n'est plus tenue non plus, à cause d'un appauvrissement également des sols, de la vie, le sol n'est plus structuré. Donc vous vous retrouvez avec de la boue sur les routes, et qui fait qu'il va nettoyer et sécuriser les routes, les services du conseil départemental. Le service du conseil départemental, qui c'est qui le finance? C'est vous, encore le contribuable. Et vous avez aussi, et là, je veux dire, c'est plus un secret, c'est même plus un secret de polichinelle, toutes les maladies issues justement de des pesticides, de perturbateurs endocriniens. Donc vous êtes malade, vous faites soigner par qui? Et ben c'est par la Sécu, et la Sécu c'est vous. Voilà.
Absolument.
Donc en fait un produit vous le payez 4 fois, 4 ou 5 fois, alors que il y a des moyens. Une fois qu'on est d'accord sur le constat, eh bien il faut encourager les producteurs. Moi je suis pas pour jeter des cailloux et désigner et mettre à l'échafaud les producteurs. Non, bien au contraire, il faut les encourager à faire mieux et à aller vers des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Donc de l'environnement, mais du contribuable et de la santé de tout le monde. Donc voilà, c'est bien manger, ça rejoint aussi la fiscalité.
La solution est donc dans la responsabilité citoyenne ou dans la responsabilisation citoyenne, certainement pas dans l'action politique. Vous êtes d'ailleurs peut-être bien placé pour le savoir, en tant qu'élu de la mairie de Castelnaudary.
Voilà, mais ancien conseiller général, mais en fait, cette responsabilité-là, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde, c'est-à-dire le citoyen consommateur, mais également les collectivités qui sont chargées de la commande publique, mais également des documents d'urbanisme. Les ancêtres des maires au Moyen-Âge, c'est-à-dire les consuls au Moyen-Âge dans nos villes méridionales, et d'ailleurs l'exemple de Villefranche, on pourrait le prendre, c'était donc la base de la légitimité politique des ancêtres des maires, donc les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur 4 sécurités. La sécurité, la première, c'est la sécurité par rapport aux agressions extérieures. Donc, fallait ériger, entretenir les remparts. La deuxième, c'était la sécurité intérieure, donc lutter contre les brigandages, tout ça. La troisième, c'était la sécurité sanitaire. Il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. C'est pour ça qu'ils avaient créé la police des grains et la police de la viande. Et il y avait également un aménagement du territoire local autour de la ville qui était consacré à l'autonomie alimentaire de la ville. Donc c'était une sécurité alimentaire collective qui se rajoutait à une sécurité alimentaire individuelle de chacun. En gros, chacun avait au moins un jardin, il avait de quoi sauver les meubles. Et cette question d'alimenter les populations, ou du moins de maintenir les conditions de l'alimentation des populations, est progressivement sortie du champ politique. Et aujourd'hui, elle est indirectement assumée par des grandes surfaces, comme Leclerc, Carrefour et compagnie, c'est pareil, et donc qui n'ont que 2 ou 3 jours de stock devant eux. Et cette question donc d'alimenter les populations était intimement articulé avec le politique et l'ordre public. Et cette articulation et ce lien entre alimentation et ordre public, je peux le dire, il n'est pas creusé. Et c'est pour ça que j'en ai fait mémoire de master spécialisé en gestion des risques sur les territoires que je présenterai à cette occasion-là. Mmh. Et c'est pour ça que j'avais fait cette expérience de locavore. C'est tout simplement revenir aux fondamentaux. C'est pas du repli sur soi, mais c'est au moins sauver les meubles en cas de pépin. Il y a un mot qui est à la mode, hein, c'est la résilience. Et là, je vais parler de résilience alimentaire par rapport aux risques systémiques qui arrivent.
Voilà, on a tout de même la sensation que la solution repose aussi sur les citoyens. D'ailleurs, manger locavore, c'est une forme de boycott indirectement d'un autre circuit d'alimentation. Je suis pas convaincu que la politique ira suffisamment vite. Donc, c'est à chacun d'entre nous de prendre conscience de cet acte qui génère une économie sur notre territoire, économie circulaire, comme vous en avez parlé. Une rencontre débat, Stéphane Linou. On vous retrouve demain pour échanger avec vous parce que c'est passionnant et on est tous concernés par l'alimentation. Vous faisiez référence à cette pyramide historique, à la pyramide de Maslow aussi. C'est l'un de nos besoins primaires et physiologiques que de s'alimenter et bien le faire et en conscience. Ça revêt toute son importance. Demain, vous serez à 18h30 à l'hôtel des Fleurines, donc, et invité par Muriel Couder de la librairie La Folle Avoine. Un mot mot peut-être de conclusion, parce que il y a 10 ans, vous êtes lancé le défi à vous-même. Là, vous retournez le défi avec je viens manger local chez vous. Vous avez déjà eu quelques expériences. C'est quoi l'idée de ce défi et qu'est-ce que vous demandez aux familles qui vous accueillent?
Alors bon, il y a 10 ans, c'était je me mettais en scène, hein, donc c'était autour de moi l'expérience. Et là, je me suis dit tiens, je vais inverser le regard. Et je souhaite que ce soit les familles ou des particuliers qui soient le centre d'attention. C'est-à-dire, pour montrer qu'il est possible de manger un repas de fête local, chic et pas cher. Donc, un menu de fête. En fait, je lance un défi à qui veut le relever. Donc, de préparer donc un repas mais bien présenté, 3 plats minimum. Avec des ingrédients issus d'un rayon de 51 km, ce coup-ci c'est pas 150, là c'est 51 km autour de l'assiette, 51 km à vol d'oiseau, donc bien présenté, tout ça on l'a dit, et à moins de 9,50 par personne, et je rappelle que c'est un menu de fête, voilà, et moi j'arrive avec le vin.
Ah bah oui, voilà. Bah quand même,
j'arrive avec le vin local, donc ça fait pas partie des 9,50 le vin. Et l'objectif, c'est de remplir un tableau Excel avec tous les ingrédients proratisés donc à la personne, hein, et de mettre sur un tableau Excel, de mettre sur une carte Google Maps ou autre la localisation des producteurs et des paysans nourriciers. Voilà. Donc en fait, j'ai commencé par le Lot. Ensuite, j'ai fait l'Ariège, ensuite le Var, ensuite la Haute-Garonne. Repas du réveillon, 31 décembre à 9,38 €. Qui dit mieux? Voilà, j'ai fait l'Hérault et là j'ai fait Marseille. J'ai fait les Bouches-du-Rhône lundi dernier. Et en fait, l'objectif, c'est de montrer que si on y arrive pour un repas de fête, hein, ça veut dire que au quotidien, on peut y arriver pour beaucoup moins. Si on y arrive pour un repas de fête à moins de 50, ça veut dire qu'on peut y arriver pour 3-4 €, même pas. Au quotidien, c'est-à-dire que toute la dépense, vous la réinjectez sur le territoire et vous vous régalez, et en même temps, vous maintenez un peu une sorte d'assurance vie, c'est-à-dire nos producteurs, en les faisant travailler, ils restent en vie.
Merci Stéphane Linou d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Vous rencontre demain pour cette soirée conférence débat intitulée Consommer locavore, consommer localement pour faire la traduction. 18h30 à l'hôtel voilà. Des Florines chez Romain Bouillard et sur invitation de Muriel Coudert de La Folle Avoine. Merci.
Avec plaisir.
CFM, le mag, tous les jours, la vie du Villefranchois.